Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Onden. Dans le cadre d'un projet d'étude de communication, nous travaillons en collaboration avec Radio Onden pour explorer un sujet très important, le racisme et l'antisémitisme. Afin de récolter un maximum d'avis différents, nous sommes partis à la rencontre de la population stéphanoise. Nous avons donc interrogé plusieurs personnes dans la rue pour savoir leur avis et leur opinion sur le racisme et l'antisémitisme.
Ces différents micro-trottoirs nous ont permis d'observer que très peu de personnes connaissent réellement les dispositifs pour lutter contre ces fléaux. C'est pourquoi nous nous sommes dirigés vers des acteurs locaux et nationaux de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Karim Benounet, j'ai 42 ans, je suis président de SOS Racisme Loire depuis 2 ans. Je ne suis pas que président de SOS Racisme, alors certains pensent que c'est un métier ou que je suis payé pour ça, mais non, donc j'ai une activité également à côté. Je fais de la formation en e-réputation, je travaille plus globalement dans le domaine du marketing, marketing digital, marketing d'influence.
Quel est le rôle principal de SOS Racisme? Quels sont vos objectifs et comment est-ce que vous intervenez?
Le rôle principal de SOS Racisme, nous faisons partie de la grande famille des associations qui aident des gens. Voilà, tout simplement. Le rôle de SOS Racisme, bien évidemment, le rôle premier, c'est d'aider les victimes de racisme. Donc des victimes, des personnes qui ont subi des actes racistes, ça peut être des insultes, des agressions, et d'avoir déjà un point de contact. Un point de contact pour les aider dans les démarches administratives, et un peu plus. Un peu plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire également aussi un accompagnement psychologique, en fait, parce que, par exemple, j'ai des exemples de victimes de racisme, dont un qui a fait l'actualité dans le département, un chauffeur de bus qui a été insulté. Donc, cette personne a eu des difficultés lors du dépôt de plainte pour comprendre ses droits. Et puis, il avait ce besoin d'être écouté, parce qu'il l'a senti durant toutes ses démarches, parce que ça prend des fois jusqu'à un an ou même beaucoup plus entre le moment où on subit une agression raciste et où il y a un procès, une condamnation. Alors pour le coup, on a gagné. Il y a un temps qui est long et parfois, eh ben, on sent que les personnes ne comprennent pas ce que c'est de subir le racisme. Parce que cette personne, on l'a insulté, il a subi des crachats. Donc pour certaines personnes, c'est juste une violence verbale, etc. Alors que ce qu'il a expliqué à la presse, c'est que, bah, effectivement, il avait besoin de parler parce que les propos qu'il a entendus, ça rappelle un passé, ça rappelle par exemple des choses qu'on ne veut plus entendre. Le racisme, ça veut dire que, bah, il s'est retrouvé face à quelqu'un, pas seulement quelqu'un qui ne l'aimait pas, mais quelqu'un qui lui a renvoyé une image d'infériorité. Tu n'es pas mon égal. Et c'est toujours une spécificité, une violence qui fait que, bah, un acte raciste, c'est toujours. C'est jamais anodin et c'est pour ça que, ben, au niveau de la loi, on le rappelle. Et donc, notre rôle, eh ben, effectivement, c'est d'aider les victimes pour qu'elles aillent le plus loin possible et qu'elles ne gardent pas ça en elles. Donc, de leur dire, ben, vous avez été victime de racisme, allons au bout, ne laissons rien passer. Et pour le coup, cette personne a gagné son procès et ça lui a fait du bien qu'on reconnaisse la violence qu'elle a subie.
Quand et pourquoi vous êtes-vous engagé chez SOS Racisme?
Alors, moi, j'ai été engagé dans un premier temps à SOS Racisme à Nice, parce que j'ai vécu une partie de ma vie dans le Sud. Donc ça, c'était mon premier engagement à SOS Racisme. Et pourquoi? Pourquoi je me suis engagé? Parce que, alors, c'est bateau, mais finalement, j'ai une histoire, alors même si je ne la raconte pas très souvent, mais effectivement, j'ai une histoire avec le racisme. J'ai été victime de racisme quand j'étais enfant. On a vécu dans une toute petite ville en Basse-Normandie. Et lorsque nous sommes arrivés dans cette ville, mon père est commerçant, nous étions quasiment les seuls arabes de la ville. Donc, je suis né à Paris, assez cosmopolite. Et puis là, on arrive dans une ville. Et tout de suite, toute ma famille a été perçue comme, tiens, un danger arrive. Et en fait, j'ai une enfance très heureuse, hein. Mais c'est un moment dans ma vie où effectivement j'ai ressenti, bah, voilà, ce que ça faisait vraiment le racisme et d'être face à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des gens avec une tête un peu différente et qui se sont fait une image de vous uniquement à partir des médias. Et effectivement, j'y repense, ça m'obsède totalement en fait ce qui m'est arrivé alors que j'avais 7-9 ans parce que, bah, effectivement j'entends ma famille en parler. Parce que, bah, effectivement, j'ai même des enfants, des camarades de CE2 m'ont dit, voilà, ils m'ont craché dessus, on m'a dit, oui, mais mon papa a dit que les Arabes, c'est, voilà, mon papa a dit que. Et ça m'obsède jusqu'à aujourd'hui, je suis jeune papa, je lui ai dit, mais comment c'est possible d'être à 9 ans de dire ça? Parce que bah voilà, quand moi quand j'emmène mon fils, je lui apprends à être gentil avec les autres. Et puis j'ai l'impression d'avoir compris que maintenant que bah effectivement ce papa qui a dit à sa fille, il lui a pas dit de me cracher dessus, enfin mais il lui a dit peut-être de faire attention. Il a dit voilà, les Arabes c'est ceci, c'est cela. Bah c'est juste un papa qui dans le début des années 90, à une époque où on n'était pas trop représenté, bah effectivement dans le cinéma quand il y avait un rôle d'Arabe, de Maghrébin, quelqu'un un peu de ma couleur de peau, eh ben on lui donnait plutôt des rôles de méchants. On parlait de nous plutôt dans les faits divers. Et ben voilà, donc tout ça fait qu'il y a une représentation des personnes avec une certaine couleur de peau. Et lui, il avait que cette image-là. Donc ce papa, alors c'est pas pour le défendre, mais peut-être que bah effectivement dans sa tête, on lui a pas laissé la possibilité d'imaginer cette personne comme un danger qui arrive et il voulait protéger sa fille. Alors ça peut paraître bizarre ce discours de finalement limite de légitimité, légitimé, mais c'est ce qui explique que mon intérêt, mon envie de rejoindre SOS Racisme, c'est que, alors moi j'ai parlé de la partie juridique, mais il y a une partie éducation, et cette partie éducation, elle est pour moi essentielle parce qu'elle permet aussi de rappeler qu'il est nécessaire pour construire un monde de paix, un monde où les gens vivent ensemble, et pas un monde où le monde des uns contre les autres. Il est nécessaire justement de faire cette éducation aussi aux médias, aussi contre les préjugés, et c'est ce qu'on fait dans l'éducation. Donc quand moi je suis arrivé à Nice et que j'ai rencontré par hasard, j'ai rencontré SOS Racisme, il y avait un stand, j'ai discuté avec eux, on m'a parlé de l'aspect éducation, et j'étais tout de suite touché parce que je me dis effectivement c'est là qu'il faut agir. Parce que on va voir les enfants, puis on leur dit effectivement, voilà, il faut travailler sur ces préjugés. On a tous des préjugés, et ces préjugés peuvent être effectivement influencés par les médias sociaux, par la télévision, et puis également un rappel à la loi. Et je pense que c'est la base. Et je me dis à chaque fois qu'on intervient dans une école, on peut peut-être éviter des situations comme celles que j'ai vécues il y a 20-30 ans. Donc oui, ce qui m'a donné envie en premier, en tout cas, c'est vraiment l'aspect éducation. Même si il y a la partie juridique que j'ai mentionnée tout à l'heure, mais ce qui m'a donné vraiment envie, c'est plutôt l'aspect éducation, oui, dans un premier temps.
C'est assez intéressant que vous ayez commencé à SOS Racisme Nice, parce que nous, du coup, durant nos micro-trottoirs, on a interrogé pas mal de personnes stéphanoises. En fait, on a eu deux personnes qui venaient du Sud, donc qui ont grandi, qui sont nées dans le Sud, et qui nous ont dit qu'il y avait vraiment une différence entre le Sud et ici. La plupart des personnes qu'on a interrogées nous disaient qu'à Saint-Étienne, le racisme et l'antisémitisme n'étaient pas énormément présents. Mais par contre, les deux personnes qui viennent du Sud nous ont vraiment fait remarquer que dans le Sud, en tout cas, elle, c'est du coup Marseille, la ville de Marseille, le racisme était très présent. Est-ce que vous, du coup, vous avez vu cette différence entre Nice et Saint-Étienne ?
Oui. Oui, on va être honnête. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, depuis que je suis président, alors peut-être que je porte la poisse pour parler... Comme disent les militants de SOS Racistes, c'est vrai que depuis que je suis arrivé à Saint-Étienne, il y a eu une augmentation des actes racistes. Bon, voilà. Mais je pense que c'est un contexte national, c'est pas juste ma présence. J'espère, je touche du bois. Mais à Nice, effectivement, on va dire que c'est un peu plus décomplexé. Et c'est vrai que quand j'étais au comité de SOS Racisme Nice, on a eu beaucoup à faire, par exemple, à des groupuscules d'ultra-droite qui étaient assez influents, comme les jeunesses identitaires. On avait Nice à Rebella, qui organisait, par exemple, plein d'événements contre les prières de rue, des actions pseudo-solidaires avec les SDF français, vu que c'était vraiment... Ils avaient de la soupe au porc ou des choses comme ça. Donc, c'était beaucoup de provocations. C'était vraiment quelque chose qu'on avait à Nice, c'est-à-dire des groupuscules d'ultra-droite vraiment visibles, présents, alors que à Saint-Étienne, on sent que c'est une ville plus antiraciste, antifasciste, c'est une ville populaire, et effectivement, on n'a pas les groupuscules, alors je ne parle même pas de l'extrême-droite, je parle vraiment de l'ultra-droite qui ont une telle visibilité, donc c'est bien, Saint-Étienne peut être fier aussi de cette histoire un petit peu solidaire, d'un monde associatif aussi qui se bat contre le fascisme, le racisme, mais il faut rester prudent parce que, comme je l'ai dit, on a également à Saint-Étienne monté des actes racistes et ce n'est pas une exclusivité du sud de la France. Hein. Vraiment, il faut vraiment se méfier. On risque d'avoir des surprises pendant les municipales. Ce n'est pas parce qu'on les voit moins, même si on voit maintenant aussi quelques tags Et il y a même eu un salut nazi qui avait été fait à l'université qu'on avait remonté. Il y a beaucoup de voyants qui nous disent voilà, d'être prudents. Et pour ceux qui, comme nous, pensent qu'il y a un danger fasciste, un danger raciste, de ne pas hésiter à d'aller voter tout simplement au municipal contre les partis d'extrême droite.
D'accord. Et du coup, plus globalement en France, est-ce que la situation, selon vous, elle est plutôt positive ou négative? Est-ce qu'il y a vraiment une évolution sur la France en général?
Elle est négative. Elle est négative. Donc, ce n'est pas selon moi. C'est, bon, il y a quand même des chiffres. Il y a quand même un décompte des actes racistes, des actes antisémites, des actes anti-religieux. Quand on parle d'actes anti-religieux, c'est vrai qu'on comprend beaucoup les actes qui touchent aussi, qui touchent particulièrement les musulmans. Et on n'a pas de signaux positifs, hein, malheureusement. Et je me permets de revenir un petit peu sur mon historique avec SOS Racisme. C'est vrai que j'ai été militant à Nice pendant peut-être 8-10 ans. Puis à un moment, j'ai fait une pause dans ma vie. Parce que pour des raisons très égoïstes, comme travailler, avoir des enfants, m'occuper de moi, tout simplement, parce que c'est très, très prenant. Et ce qui m'a poussé à revenir à SOS Racisme, c'est que j'ai vu la situation se dégrader. Pour faire simple, à un moment, j'ai senti que la situation semblait aller un tout petit peu mieux. Et je me suis dit, bon, voilà, on peut se mettre un peu en retrait, parce que c'est toujours très, 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 très prenant et très fatigant, ce genre d'activité associative. Et oui, malheureusement, il y a vraiment énormément de choses qui me choquent énormément. Alors, dans mon parcours professionnel, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, donc déjà sur la haine en ligne, par exemple, sur beaucoup de médias sociaux, parce que je suis également un ancien professionnel de la modération de contenu, je sais, j'ai plusieurs casquettes. Et par exemple, sur les réseaux sociaux type X, mais Facebook, etc., on voit qu'il y a une désinhibition de la parole raciste, aussi parce qu'il y a moins d'efforts de ces plateformes américaines de modérer les contenus racistes. Par exemple, la plateforme X, anciennement Twitter, détenue par Elon Musk, on sait très bien cette volonté de faire de cette plateforme un espace de, entre guillemets, liberté d'expression. Mais c'est quoi la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a la liberté d'expression quand on laisse s'exprimer des gens qui pensent que tous les humains ne sont pas égaux? Est-ce que l'égalité, ce n'est pas la chose la plus essentielle à protéger pour que les libertés d'expression? Mais en tout cas, voilà, X, c'est devenu une plateforme où il y a énormément de propos LGBT-phobes, antiféministes, masculinistes et racistes. Et voilà. Et c'est vrai qu'après le 7 octobre 2023, pour rester sur X, ça correspondait à peu près à la naissance de mon fils. C'est vrai que j'ai eu un peu c'était un jour avant la naissance de mon fils, je m'étais connecté sur X. Puis j'ai vu des choses que moi qui suis dans la modération de contenu, que j'avais pas vu avant. C'est-à-dire que je suis censé être habitué à voir des choses haineuses, racistes, mais vraiment, j'en ai beaucoup vu. On a atteint un stade que j'ai jamais vu. Et je me suis senti comme un héros. Je me dis, il y a un signe, il est à la naissance de mon fils, mais en même temps, je vois ça. Peut-être qu'on m'envoie un signe de l'au-delà, il faut que tu reprennes du service pour sauver le monde. Et voilà, donc j'ai repris du service un petit peu, parce qu'un jour, je ne sais pas, ça, j'ai vu des choses qu'on a laissé passer, d'une violence raciste, antisémite, que je n'avais pas vue avant. Voilà, donc il y a énormément de travail. Et si je sais que ce contenu va être diffusé à des millions de personnes, donc voilà, si ça peut en motiver, vraiment, on a besoin d'aide vraiment dans l'antiracisme, parce que ben, il y a vraiment des vrais leviers d'action, des choses concrètes à faire. Peut-être que ça sera, on en parlera pour une autre question, mais voilà, il y a vraiment une énergie, il y a vraiment du travail à faire.
Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que la situation en France se dégrade, bah, notamment nous, vu qu'on est assez jeunes, on est quand même la cible et les utilisateurs principaux des réseaux sociaux. Est-ce que, du coup, comment vous expliqueriez cette dégradation? Vous nous avez parlé de tout ce qui se passe sur Internet, des réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est assez visible. Est-ce que, pour vous, il y a d'autres éléments qui expliquent, du coup, cette dégradation au fil du temps de la situation?
Oui. Tout simplement, aussi, la condition de vie des gens est de plus en plus difficile. Et c'est la logique du bouc émissaire. Nos sociétés sont de plus en plus, il y a plus de paupérisation, il y a des guerres, il y a une situation qui est globalement de plus en plus compliquée pour énormément de personnes. Et quand on va pas bien, eh ben on est un peu plus sensible à l'idée de tout mettre sur le dos d'une catégorie de personnes. Et c'est comme ça que fonctionne généralement le racisme. À un moment, bah, effectivement, les gens vont pas bien. On n'a pas de solution pour qu'ils aillent mieux. Donc, on va dire tout simplement, ben, regardez, vous voyez, cette personne, elle est facilement identifiable. Elle est plutôt d'une autre couleur. Donc, on peut dire, tiens, ben voilà, c'est à cause de lui. Et puis, on raconte des récits autour d'une personne, autour d'une catégorie de personnes. Donc, oui, Josh, je pense qu'il y a ce critère-là. Et aussi, je pense qu'on n'a pas été bons, nos sociétés n'ont pas été bonnes sur la question des médias. C'est-à-dire qu'on a une révolution médiatique il y a une vingtaine d'années. Avant, il y avait quelque chose d'assez vertical, c'est-à-dire qu'il y avait la télé, on regardait tous à peu près la même chose. C'était à peu près réglementé. Puis un jour, voilà, Internet est arrivé et aucun politique ne s'est dit « bon, il faut quand même... faire attention parce qu'il n'y a pas énormément de transparence, et même s'il y a cette idée que bah, tout le monde peut s'exprimer, et ben, ça va forcément, si on ne réglemente pas, si on ne demande pas de la transparence, ben, il y aura forcément des tentatives de manipulation. Et on a été très très naïfs. Je ne sais pas si c'est de la naïveté ou aussi une peur des politiques de passer pour des technophobes. En tout cas, on n'a pas réglementé les médias sociaux et on ne s'est pas dit que, effectivement, avec le pseudonymat, certains l'ont profité pour créer des milliers de faux comptes, pour partager des rumeurs racistes. On ne s'est pas dit que, effectivement, si on ne demandait pas la transparence des algorithmes, vous savez ce que c'est les algorithmes ?
Bien sûr.
C'est-à-dire, ce qui explique que vous voyez tel contenu plutôt qu'un autre sur un réseau social, si on ne demandait pas la transparence, on va laisser des milliardaires dont le seul but est de capter notre attention pour la vendre à des publicitaires, si on ne réglemente pas ça, effectivement, ces gens-là vont bien jouer sur nos caractéristiques psychocognitives qui font qu'on est un peu plus attiré par ce qui est clivant, par ce qui est un peu violent, par des contenus polarisants, et ce qui fait que aujourd'hui, ces réseaux qui devraient permettre à nos démocraties d'être plus efficaces, elles polarisent plus et elles font que ces réseaux, aujourd'hui, on construit notre esprit démocratique vraiment avec des plateformes qui ont des propos clivants, des fois racistes, des fois sexistes. On en paye les conséquences.
Et vous avez beaucoup parlé, en fait, on a beaucoup parlé du racisme et de l'antisémitisme, mais je pense que vous, au sein de SOS Racisme, vous luttez contre un problème qui est plus global à Saint-Étienne, en France et dans le monde, qui concerne vraiment la haine, que ce soit racisme, antisémitisme, haine de genre, vraiment une haine globale. Est-ce que quel autre genre de comportement, du coup, vous cherchez à lutter et à vraiment stopper, au-delà de simplement le racisme et l'antisémitisme ?
Je suis content que vous posiez cette question, parce que moi, j'aime bien rappeler que nous sommes universalistes, et de rappeler que dans notre lutte contre les préjugés, contre le racisme, on est là pour lutter contre des mensonges, contre la haine de l'autre, et rappeler que dans les haines LGBT-phobes, dans les discours antiféministes, il y a cette même volonté déjà de nier des inégalités, c'est ça. Et puis également de rappeler que, par exemple, c'est pas parce qu'on est antiraciste, nous on comprend par exemple ce que ça fait d'être victime d'une violence raciste, mais on est également capable de comprendre ce que c'est que de subir des violences sexistes et LGBT-phobes. On a toujours cette idée vraiment de rappeler ce lien nécessaire entre ces luttes-là. Parce que déjà, malheureusement, ça s'additionne. Si on est d'une certaine couleur et qu'en plus on est trans ou autre, effectivement, ça s'accumule. Et souvent, les gens qui n'aiment pas les femmes, n'aiment pas les Arabes aussi, n'aiment pas également les personnes homosexuelles. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui nous semblent nécessaires. On était co-organisateurs, par exemple, de la journée sur le masculinisme. Et ce que j'avais expliqué dans mon discours, c'est également, effectivement, la leçon qu'on a appris, par exemple, durant tous les échanges qu'on a eus sur le masculinisme, c'est que il y a beaucoup de masculinistes qui sont souvent dans des réseaux haineux, et qu'il y a des gens, les gens qui expliquaient que les Noirs et les Arabes volent notre travail, aujourd'hui, ils sont en train d'expliquer que ils ne volent pas seulement notre travail, mais également nos femmes. Donc, il y a toujours une espèce de porosité dans les haines. Et si on est vraiment juste avec des œillards à regarder que le racisme, ou que l'LGBT-phobie, ou que le féminisme, on s'empêche de trouver des réponses communes.
Pour revenir un petit peu au micro-trottoir qu'on a effectué à Saint-Étienne, on a donc demandé aux gens quel dispositif serait intéressant à développer pour lutter contre ces discriminations. et une grande majorité des interrogés ont mentionné le fait de faire plus de sensibilisation, et ce, dès le plus jeune âge. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution, et comment est-ce qu'on peut la mettre en place efficacement ?
Oui, alors c'est bien. Nous on intervient auprès des collégiens et des lycéens. On a trois modules. On en a un spécifiquement sur les discriminations et le racisme, on en a un sur l'égalité femmes-hommes et un sur la haine en ligne. Et on a cette réflexion depuis toujours, c'est-à-dire de travailler auprès de publics encore plus jeunes. Et le racisme, c'est vrai que c'est un mot qui fait peur, mais on peut toujours travailler sur le racisme en prenant d'abord la base de notre combat, c'est-à-dire aller voir les plus jeunes, mais déjà leur parler du rapport à l'autre, des questions d'empathie, des questions de préjugés. Et aujourd'hui, même dans la littérature pour enfants, on trouve vraiment des livres très très bien qui rappellent effectivement le respect de l'autre, la compréhension des sentiments de l'autre, le fait que nous vivons avec des gens qui sont différents. Tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler plus jeune, et c'est pas évident, et ça demande d'être soutenu, parce que ça demande des outils pédagogiques. On a eu la chance de travailler dernièrement, par exemple, avec les petits débrouillards, qui travaillent avec une mallette pédagogique, qui fait des jeux, notamment avec des personnages Disney de différentes couleurs. Donc il y a vraiment un travail qui est à faire, mais il faut que ça soit valorisé. Nous sommes des bénévoles. Les modules que nous avons créés, nous bénévoles, ça nous a pris du temps, c'est-à-dire on travaille à côté. Mais si on veut une société sans racisme, il faut aller aussi voir des publics encore plus jeunes, et il faut peut-être mettre des moyens pour avoir un discours aussi qui soit adapté. C'est-à-dire de rappeler simplement qu'on vit ensemble avec des gens différents et qu'on se doit le respect, puis on doit également être attentif au ressenti des autres.
Un grand merci Karim pour votre temps. Donc grâce à cet échange très enrichissant, nous avons mieux saisi l'importance d'une structure telle que SOS Racisme, et surtout les démarches concrètes à suivre pour intensifier la lutte contre les discriminations racistes et antisémites.
Si vous aussi qui nous écoutez avez déjà été victime ou témoin d'actes racistes ou antisémites, nous vous invitons vivement à contacter SOS Racisme Loire ou d'autres organismes pouvant vous aider.
Merci à vous Karim, et nous vous souhaitons une agréable journée.
Merci.